A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Lorsqu'elle arrive en France à l'âge de 19 ans, Irina Teodorescu ne parle pas un mot de français. Elle débarque avec sur le dos le poids et le charme des Balkans, avec une langue roumaine aussi, qui fut celle de Cioran et de Mircea Eliade, deux monstres littéraires. Désormais, le bleu du Danube glisse poisson sous un tapis de pâquerettes françaises pour la Teodorescu qui écrit dans la langue de Molière des histoires qui se passent encore un peu derrière le rideau de fer. Après la malédiction du bandit moustachu et les étrangères, la voilà qui publie « Celui qui comptait être heureux longtemps ». Bonjour Irina Teodorescu.
Bonjour Yasmine Chouaki.
Quelle est votre heure préférée du jour ou de la nuit ?
Eh bien ça dépend pour quoi faire. J'aime beaucoup le matin pour travailler et puis j'aime beaucoup aussi 5 heures du matin pour aller me balader dans Paris, mais je ne le fais pas assez souvent.
Sur notre petite planète en sol majeur, il est tout à coup 5 heures du mat. On est à Bucarest et c'est l'heure de la messe, des chiens, des coqs et des tramways. Alors, ce qui m'étonne le plus dans votre Bucarest, Irina, ce sont ces bruits de marteaux.
Oui, alors c'est une façon d'appeler à la messe, qui est différente des cloches probablement, parce qu'il y a pas mal d'églises qui n'avaient pas de cloches.
Donc ils font comment ?
Eh bien, ils ont des énormes planches en bois et des marteaux, ils tapent dedans. Alors il y a des planches qui sont mobiles, parfois il y a des moines dans des monastères à la campagne qui font le tour de l'église. Je crois que c'est 3 fois, avec cette planche sur le dos, un tapon dessus pour rappeler la messe.
Je me disais que le seul marteau autorisé, en tout cas dans la Roumanie de Ceaușescu que vous avez connu, c'était celui de la faucille et du marteau.
Alors oui, ils n'étaient pas très bien vus, les popes orthodoxes et tout leur rituel pendant le communisme. Alors moi, quand même, j'avais que 10 ans à la Révolution, donc à la chute du mur aussi de Berlin. Et du coup, ça ne m'a pas trop marqué, en fait, finalement, le communisme.
Dans ce plan séquence-là, qu'on s'est offert de façon en sol majeur, on a quand même quelques ingrédients de la narration, telle que, éventuellement, vous la concevez, vous, en tant qu'auteur, quand vous écrivez. Il faut qu'il y ait du son, des images et un climat.
J'aimerais bien pouvoir faire ça, en fait, raconter avec des sons une histoire. Et sinon, tout ce qu'il y a, en fait, c'est une ambiance que j'essaie effectivement de restituer dans mes écrits. Par exemple, dans mon dernier roman, le premier chapitre, on me dit, mais on a l'impression que c'est une caméra qu'on suit dans une ville. En fait, ça se passe à la fin d'une guerre, donc après un bombardement. Et on m'a dit qu'on a l'impression de suivre ces personnages comme si on était une caméra. Alors moi, je ne m'en rends pas compte pendant l'écriture, mais bon, il faut que je me rende à l'évidence.
Qu'est-ce qu'il vous faut à vous pour démarrer un récit ? Un coq ? Un tramway ? Une photo de grand-mère ?
Ça serait beau que ça soit aussi simple que ça. Alors non, c'est plus une pensée ou un état d'esprit. Et éventuellement, une question pour laquelle je n'ai pas de réponse.
Alors, quelles questions vous avez creusées autour de ce portrait de grand-mère que vous avez fait dans une nouvelle intitulée Antoanella ? C'était son prénom.
Alors, c'était pas le vrai prénom de ma grand-mère. Et donc, j'ai effectivement raconté, très brièvement, parce que c'est une toute petite nouvelle, une histoire d'amour extra-conjugal de ma grand-mère. La question, c'est... en fait, j'ai l'impression que, d'ailleurs, dans tous mes écrits, c'est toujours la même question. C'est qu'est-ce qui détermine un choix de vie aussi important que, en l'occurrence, celui de ma grand-mère, qui était de ne pas quitter sa Roumanie natale et rester à Paris. Et ça me travaillait beaucoup parce qu'en fait ça aurait changé toute ma vie à moi, puisque je suis sa petite fille. Donc
Alors cette grand-mère, elle va se marier en pleine Seconde Guerre mondiale, un petit peu avant 1944. Elle va devenir une très grande artiste.
Oui, oui, une soprano. Elle va travailler, je crois, toute sa vie à la philharmonique roumaine de l'époque. Et du coup, elle va travailler et voyager beaucoup avec la philharmonique à l'étranger, ce qui était quand même assez particulier et singulier, surtout à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de... Enfin, la plupart des Romains qui ne pouvaient pas quitter le territoire. On ne pouvait pas partir comme ça, se réveiller un matin et se dire « Tiens, je vais me faire un petit voyage en Grèce parce qu'il fait beau. »
Et elle, avec son passeport de soprano, eh bien, elle va faire presque le tour du monde et elle va craquer à un moment donné pour un costume d'aviateur et l'aviateur qui va avec. Elle le rencontre à Florence en 1963 et ils vont se mettre à vivre des amours florentins, parisiens, grecs. Et là... Mais on va raconter, parce qu'effectivement, leur passeport toujours en poche, qui n'aura jamais été confisqué par le dictateur de l'époque, ils continuent de s'aimer en faisant des allers-retours, comme ça, entre Bucarest et le monde libre, jusqu'au jour où...
M comme... Mergue.
Un soir à Paris, là de rentrer, il lui proposa de rester. Ne pourrions vivre ici, loin de tous. Je trouverai facilement du travail et toi, tu chanteras à l'opéra. Demandons l'asile, restons ici, faisons notre vie ensemble. Tu feras venir les garçons et nous serons heureux, l'implora-t-il. Il voulait une vraie vie, une seule vie, sa vie à lui, avec elle. Je l'ai vu dans les photos. Il avait l'air d'un homme sincère. Antoinella avait fondu en larmes. Elle avait d'abord pensé à mon grand-père, mais une seconde seulement. Tout de suite après, des souvenirs de son village l'avaient envahi. Les vergers en fleurs, les chants de Noël, sa mère en costume traditionnel... Elle entendit le bruit de la rivière où elle allait se laver quand elle était petite. Elle ressentit le même frisson qui parcourait son corps au contact de l'eau fraîche. Ensuite, elle revit comme dans un rêve l'église qui traversait la rue le jour d'avant son départ pour Paris. Le dictateur abattait les églises, mais celle-là, par chance, était protégée par quelque organisme international. Alors on avait demandé qu'on la déplace, qu'on la cache. Ma grand-mère, ébahie, avait regardé l'édifice monté sur des énormes roues en train d'avancer sur le boulevard. En plus, le français, je ne le parle pas, pensa-t-elle, et sa décision fut prise. Antoinella rentra, et l'aviateur resta. Elle laissa derrière elle 12 ans d'amour illégitime.
Étonnante, hein, cette décision d'Antonella, votre grand-mère, Irina Teodorescu, elle a choisi la patrie plutôt que l'amour et le monde libre.
C'est ce que j'ai imaginé, en fait. C'est justement, c'est pour ça que je dis, j'écris à partir d'une question qui me taraude. En tout cas, il faut que je ne comprends pas comme ça au premier abord. Vraiment, oui, ça m'a étonnée quand j'ai appris. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle est revenue? C'est vrai que je ne suis jamais sortie de la Roumanie pendant le communisme, mais je suis partie. Mon premier voyage était d'ailleurs pour Paris, 10 ans après la Révolution. Et lorsque je suis revenue en Roumanie, ça me paraissait, j'avais l'impression de descendre dans un monde sombre.
Alors, je ne l'ai pas dit, mais ce que vous venez de nous offrir, c'est un extrait d'une nouvelle, Antonoella, qui fait partie d'un recueil de nouvelles intitulées 13, avec cet extrait de Nabucco de Verdi. C'est ce que chantait votre grand-mère soprano?
Oui, je pense qu'elle avait tout un répertoire d'aria, d'opéra. Et après, moi, quand je l'ai connue, elle était déjà à la retraite, et puis elle chantait beaucoup à l'église. J'ai des souvenirs de chant de Noël ou de Ave Maria pour son plaisir à la fin de sa carrière.
En tout cas, il y a un secret presque entre vous, c'est Paris. Elle vous fait faire presque une promesse par rapport à Paris, cette ville lumière qu'elle adore, dont elle est éprise, mais qu'elle ne va pas choisir pour vivre ses amours illégitimes. Vous avez une mission, vous, avec Paris, à cause de cette grand-mère, à cause ou grâce?
Mais écoutez, moi, j'ai fait un petit peu ma psychanalyse et j'ai vu que, finalement, elle m'avait donné comme ça un chemin de vie. Je suis moi-même assez impressionnée devant le fait que j'ai obéi,
c'est-à-dire
mais à la lettre. C'est-à-dire, elle m'a dit qu'il fallait que je me trouve un mari étranger, qu'il fallait que je quitte le pays, il fallait que j'aille à Paris de préférence, que mon mari soit plus âgé que moi d'au moins 10 ans, parce qu'un mari de même âge ou trop jeune me battrait, et qu'il fallait que je devienne écrivaine, enfin poétesse.
Mais écoutez, jusque-là, j'ai l'impression que vous avez respecté toutes les...
Voilà, et du coup, aujourd'hui, je me trouve à avoir tout accompli, et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je peux encore faire? Parce que, ça y est, j'ai fini tout ce qu'on m'a donné comme indication, donc... Si ça se trouve, je vais être perdue bientôt.
Vous n'êtes pas la réincarnation de votre grand-mère?
Non. Enfin, je ne sais pas comment ça marche, la réincarnation. Qui sait?
Alors, elle vous a demandé de suivre le parfum de Paris. C'est ce qu'elle dit à un moment donné. C'est ce que vous écrivez, vous, en tout cas. Mais il y a un autre parfum, c'est celui des années 60. Avec cette fameuse chanteuse américaine, Timmy Euro, que vous avez programmée pour un sol majeur, avec cette chanson « The Love of a Boy ». L'amour d'un garçon peut changer une fille. Et en fait, cette chanteuse américaine que moi je découvre, elle ressemble beaucoup à Irène, l'un des personnages de votre nouveau roman.
Alors non, elle ressemble à Dee, c'est la deuxième fois.
Enfin, Dee, pardon.
Sans dévoiler toute l'histoire de mon deuxième roman, mais effectivement, j'ai eu envie de mettre de la musique dans ce roman. Le personnage principal, donc beau, est jeune et il aime beaucoup la musique jazz. Dans les années 60, j'ai cherché une chanteuse, mais c'est une des cassettes que j'ai héritées de mon père. Et c'est vrai que je trouve qu'elle a une très belle voix, cette chanteuse. Donc je me suis dit, bon, je vais la mettre dans mon livre. Et puis je vais la faire ressembler à un des personnages principaux.
Donc Timmy Euro pour un sol majeur sur RFI, c'est un peu la musique de votre roman, Celui qui comptait être heureux longtemps.
The love of a boy can change a girl into a woman. Difference you made. The love of a boy can change a girl into a woman. With just one caress, your tenderness made me a woman in love. it's only for you, my true, true love.
Ça, c'est typique hein, des années 60, c'est-à-dire que la chanson ne se finit jamais vraiment. Hein. C'est avec un chant, comme on dit ici en radio. Vous êtes sur RFI, entre l'Amérique de Timi Iuro, le Paname d'une grand-mère roumaine et le Bucarest. Alors là, d'un certain Mircea Dinescu, c'est un poète qui a longtemps été interdit par le régime de Ceausescu et qui s'exprime lors de la révolution de 1989, lorsque la télévision libre est proclamée.
Către întregul popor român. Fraților, în clipa aceasta lucrăm împreună la programul și proclamația către țară. Rugăm să vă păstrați calmul și înțelepciunea. A curs destul sânge. Trebuie să avem răbdare. Am așteptat 20 de ani, 25 de ani. Să mai avem răbdare, câteva minute. Poporul a învins. Apelăm încă o dată la armată și la securitate să depună în Bernă.
Decom.
Să fraternizăm.
Dictatură.
A curs destul sânge la Timișoara, la București, la Cluj, la Iași.
Mod d'emploi.
Alors Irina Teodorescu, faut nous traduire ce moment qui est important là, on est dans ce moment de révolution de 89, on y voit sur un plateau de télé le poète Mircea Dinescu qui est entouré par une foule et qui fait quelle déclaration?
Ce qui s'est passé, c'est qu'il était avec un groupe, donc il y a d'autres intellectuels, écrivains, directeurs de théâtre, et donc ils sont entrés dans la télévision, et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient émettre un direct.
Ceausescu venait d'être arrêté déjà.
Ceausescu venait d'être arrêté, mais il y avait des tirs, il y avait des morts, on ne savait pas qui tirait sur qui. Et lui, il est arrivé, alors il m'a raconté qu'il est sorti de chez lui parce qu'il était en résidence gardée, enfin...
Surveillé,
et d'un coup, les gens sont partis, enfin ses surveillants sont partis, et il s'est rendu compte qu'il pouvait partir, lui aussi, sortir dans la rue. Donc il est sorti, et qu'il y a des gens qui sont venus le chercher à ce moment-là, avec un tank, et donc ils l'ont monté sur ce tank, et ils sont allés à la télévision direct. Et là, on lui a dit, on va faire une émission en direct, la première émission libre. Et donc, dis quelque chose, c'est toi l'écrivain, fais un discours. Et donc, c'est un peu un discours à la main levée, comme ça, dans lequel il dit « Frère, s'il vous plaît, soyez patient. » Alors, c'était comment on s'adresse, parce que jusqu'ici, on disait « camarade ». Alors, d'un coup, on ne peut plus dire « camarade », c'est le mot communiste. Donc, il faut dire autre chose, mais quoi? Donc, il commence par « frère ». Et donc, il dit « un peu de patience, s'il vous plaît ». Et c'est très drôle, parce qu'il dit « On a patienté pendant 20 ans, et puis en fait, il y a son collègue qui est maintenant le directeur de Théâtre National qui lui dit « Mais non, 25 !» Et en fait, il se reprend et il dit « On a patienté pendant 20 ans, 25 ans !» Mais on le voit à la télé comme c'est un direct, et donc, ayez encore un peu de patience, quelques minutes, pendant laquelle on va écrire la nouvelle constitution, enfin, très improvisée. Mmh. Et il annonce ça, il demande que ceux qui tirent déposent les armes.
Vous avez 10 ans à ce moment-là, de quoi vous vous souvenez?
Alors je me souviens très bien, et d'ailleurs c'est, j'espère que ça sera le sujet de mon prochain roman, parce qu'en fait, alors moi j'étais au ski dans les Carpates, il y a des très belles stations du ski, et donc il y a nos animateurs du ski qui viennent nous chercher, qui nous disent il faut descendre, vos parents sont venus vous chercher. Et donc ça, je me souviens, et puis je me souviens de tout le trajet qu'on a fait avec mon père et mon grand-père pour rentrer. Alors ils m'ont dit de me coucher dans la voiture, parce qu'en fait, il y avait effectivement des tirs. Mais je regardais quand même, parce que j'étais curieuse, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Mon père était extrêmement heureux, mon grand-père aussi. Et
puis, ils osaient le dire, pour la première fois.
Ah oui,
parce
oui,
évidemment.
Non, mais ils osaient déjà le dire.
Critiquer le régime était quand même jusque-là une chose compliquée.
Oui, mais en famille, on le faisait quand même. Hein. C'était
à voix basse.
Oui, à voix basse, ou même... Mon père était ingénieur électroniste, donc je pense qu'il savait s'il y avait des micros dans la maison ou pas. Donc au moins, on avait ça comme avantage. Mais Ceausescu avait publié un énorme livre, mais énorme, genre 2000 pages. Ça s'appelait « Hommage ». Et donc c'était un hommage à lui-même. Il n'y avait que ça dans les librairies. Donc les gens, ils avaient cassé les vitrines des librairies, ils avaient sorti tous ces hommages. Et il faisait des feux comme ça, donc il y avait des feux de joie un peu partout dans les villages qu'on a traversés.
Un bel auto da fé.
C'est impressionnant, moi ça m'a marqué pour toujours. Je me dis, mais cette ambiance de communion, mais dans la joie.
Ce régime totalitaire de Ceausescu, on l'entend, il a marqué, il a marqué le pays, mais il vous a marqué dans votre chair à vous, Irina Teodorescu. Mais il y a un drame qui va nourrir presque tous vos textes et qui concerne en particulier votre frère de 11 ans.
Mmh. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est l'histoire vraie. J'ai eu un frère qui est mort quand j'avais moi 7 ans et lui 10. Alors il est mort d'une leucémie, donc il est tombé malade à un moment. Et en fait, ce que j'ai appris depuis quelques années, c'est à travers ma mère, c'est que lorsque mon frère est tombé malade au départ, mes parents ils ont appris qu'il y avait une possibilité d'une greffe à Paris. Et ce que j'ai appris par ma mère, c'est qu'on lui aurait proposé d'aller faire de l'espionnage scientifique en France. On lui avait dit, bon voilà, si tu veux, tu peux amener ton fils, mais en échange de déjà rejoindre nos services d'espionnage, donc la Securitate, qui était tout ce qu'on détestait le plus, enfin c'était le régime, c'était la garde de régime, ou alors on ne te laissera pas partir. Donc ça voulait dire, ou alors... ton fils ne survivra pas à sa maladie. Mmh. En fait, ça, c'est ma mère qui m'a raconté ça. Elle m'a dit que mon père lui a raconté ça bien plus tard, après la fin du régime, parce qu'il aurait eu peur même de lui raconter à elle.
Et donc, ce nœud familial court tout au long de votre nouveau roman, celui qui comptait être heureux longtemps. C'est un roman qui s'ouvre sur une scène d'accouchement assez terrible, assez absurde en même temps. Au moment où la ville est bombardée, aucun voisin ne veut accompagner ce couple, Paul et Alla, à l'hôpital. Les taxis eux-mêmes demandent un supplément pour cause de bombardement. De quel bombardement il s'agit ?
Le roman n'est ni placé
dans
le temps ni dans l'espace. Mais je pense qu'on peut assez rapidement déduire qu'il s'agit quand même de la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'il s'agit de Bucarest quelque part, mais moi j'ai un peu brouillé les pistes, j'aime beaucoup faire ça. Et donc cette ville est placée au bord de la mer et au bord d'un fleuve. Et en réalité, Bucarest n'est ni à la mer ni au bord d'un fleuve. Il y a toujours des fleuves dans mes livres. Donc,
Celui qui comptait être heureux longtemps, ça c'est le titre, et c'est une phrase que prononce votre héros qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle Beau, de son prénom.
Pourquoi Beau ?
C'est des prénoms qui n'existaient pas, qui sont pas, en tout cas pas romains. Tous les personnages ont des prénoms monosyllabiques ou alors vraiment à deux syllabes. Et je me suis amusée de les dépouiller un peu de leur nationalité. Et comme je disais, c'est pas placé dans le temps, c'est pas placé dans l'espace. Et je voulais vraiment que ça soit comme un squelette en fait de personnages où on peut du coup regarder ses mouvements. Beau lui souffle à l'oreille. Tu veux sortir sur le toit pour baiser ? Et il la mord. Elle se libère, elle dit oui, sortons sur le toit. Il pleut, il fait froid et il fait déjà noir. Irène enlève sa veste et son écharpe et sa robe et son collant et tout. Elle enlève tout et elle est nue. Elle ouvre la fenêtre, sort sur le rebord, se tient un instant accroupie, regarde en bas puis se met debout. Et monte sur le toit au-dessus. Très bien, elle est complètement tarée. Beau se déshabille aussi. Il prend son temps, il déroule ses manches, déboutonne sa chemise, l'enlève, la pose sur le lit soigneusement. Si elle tombe, elle tombe. Et moi avec elle. Il sort sur le toit, cherche ses appuis, s'allonge à ses côtés sur les tuiles grises. Elle est étendue là. Les jambes et les bras écartés à scruter le ciel noir. Il la tourne vers la droite et il la pénètre. Leurs corps se réchauffent ensemble sous les gouttes glaciales, tant qu'ils sont brûlants, si brûlants qu'ils n'ont plus peur du tout et que tomber leur semble impossible. Beau se décolle d'elle, s'assoit, joue à tester une tuile ou deux, se relève. Beau debout dit, s'il faisait jour et s'il faisait beau, peut-être qu'on verrait la mer.
Celui qui comptait être heureux longtemps, un petit extrait en sol majeur sur RFI. Alors, ce que vous montrez assez joliment, Irina Teodorescu, c'est que la dictature C'est un mot monstrueux de l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur de cette dictature, c'est quelque chose qui s'insinue dans les coins du quotidien.
Ça me fait toujours penser, cette histoire de dictature, au Pinocchio qui se fait manger par la baleine. Et je sais pas, j'ai vu ce dessin animé quand j'étais petite et je me disais, mais quand il est à l'intérieur de la baleine, est-ce qu'il sait qu'il
a été mangé par la baleine?
Et bien, c'est un peu pareil pour les dictatures, je trouve. C'est que, en fait, si on le sait quand on est dedans, mais en même temps, dans la vie de tous les jours, voilà, on se réveille le matin, on va au travail, on tombe amoureux, on baise. Par exemple, si on ne savait pas, si les gens de Corée du Nord ne savent pas comment vivent les autres gens, eh bien peut-être qu'ils sont très heureux, et peut-être qu'on serait très heureux, et qu'on n'aurait pas besoin de penser qu'il faut penser la politique, qu'il faut penser la place de l'homme dans la société, qu'il faut penser la société humaine, qu'il faut penser l'écologie, qu'il faut penser toutes les choses qu'il faut penser.
Mais la dictature, ça pose quand même des problèmes de conscience.
Oui.
C'est le nœud de votre roman, avec ce père ingénieur qui a un problème de conscience avec ce fils malade. C'est exactement ce qui est arrivé à votre propre père. Régime propose un marché compliqué.
Oui, tout à fait. Mais alors, est-ce qu'il propose vraiment un marché ou est-ce qu'il le coince dans un non-choix ? Au départ, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'avais cette question. Je me dis, bon, si c'est vraiment arrivé que mon père a eu ce choix à faire, est-ce que je deviens espion? Est-ce que je trahis mes amis, ma famille? Non seulement je change d'identité et je deviens quelqu'un d'autre, mais
Pour sauver une vie.
Pour sauver une vie, mais en plus, je fais ça pour un régime avec lequel je ne suis absolument pas d'accord. Mais bon, mais tout ça pour sauver la vie, une vie, mais la vie de mon fils. Moi, j'ai des enfants, je me dis si je touche du bois, mais si ça m'arrivait, je crois que je n'hésiterais pas une seule seconde. Je dirais oui à tout. Mais moi, je suis capable de marcher sur les cadavres pour sauver mon fils, c'est sûr. Et c'était dans cette idée que j'ai écrit ce livre, je voulais comprendre. Et puis en fait, en l'écrivant, je me suis rendu compte que peut-être qu'il n'a pas eu de choix.
Et donc, vous tenez pour responsable qui dans l'affaire ? Votre père ou le totalitarisme?
Ah ben ni l'un ni l'autre, la vie.
Le destin?
J'aime pas cette notion de destin, mais peut-être le destin finalement. Enfin, je dirais bien Dieu, mais j'aime pas la notion de Dieu non plus. Donc juste la vie, la façon qu'on a d'exister. En fait, notre façon d'exister inclut la mort.
Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. 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 Sachez qu'en ce moment, je suis bien fatigué. J'en ai marre. Et je voudrais bien me reposer. J'en ai marre d'aligner des paroles et des paroles. Il y a même des contrepoints. J'en ai marre d'aligner des paroles et des paroles. C'est ma façon de faire de la musique sans musique. Je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien me reposer.
Ich würde mich gerne ausruhen.
Et puis, monsieur, madame, mademoiselle.
Und dann, meine Herren, meine Dame, mein Fräulein.
Et puis monsieur, madame, mademoiselle.
Guten Morgen, meine Herren, meine Damen, mein Fräulein.
Et puis monsieur, madame, mademoiselle.
Guten Morgen, meine Herren, meine Damen, mein Fräulein.
Et puis monsieur, madame, mademoiselle.
Guten Morgen, meine Herren, meine Damen, mein Fräulein.
Sachez qu'en ce moment. Je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien me reposer.
Ich würde mich gerne ausruhen.
Ah, Hugues Le Bar, c'est un multi-instrumentiste que la radio adore, RFI en tête, puisqu'il intègre des sons, des voix dans ses musiques. Et là, dans ce fameux J'en ai marre, il s'offre la voix de Ionesco. Donc, je rappelle, dramaturge français né en Roumanie, Irina Teodorescu. Donc ça, c'est un joli paquet pour vous.
Mais oui, et j'ai découvert ça lorsque je suis arrivée en France. Alors, je trouvais ça très, très beau de répéter. J'ai répété « J'en ai marre » et je trouvais ça extrêmement sexy, en fait.
J'en ai marre, c'est sexy pour
vous. Ah oui, oui, oui. Non, mais ça l'est plus. Mais en tout cas, à l'époque, je trouvais que c'était... De toute façon, dès qu'il y avait... des mots avec le R roulé comme ça, française, je trouvais ça sexy, donc moi, il ne me faut pas grand-chose.
Et alors donc son rhinocéros, ou sa, la maladie de la rhinocérite, donc cette métaphore de la montée des totalitarismes que Ionesco explore dans cette fameuse pièce, est-ce que ça a fait partie de vos lectures à vous, Irina ?
Eh bien, tout à fait, et avec cette petite pointe d'humour ou de drôlerie absurde qu'on trouve partout, presque dans l'ADN de chaque Roumain. Enfin, j'avais développé comme ça une théorie il y a quelque temps que ça doit se passer, le pas entre la drôlerie et l'absurde doit se faire au moment du passage de la Roumanie à la France. Me suis-je dit, peut-être dans les langues.
Alors, je ne sais pas ce qui va vous arriver à vous, qui êtes à Paris aujourd'hui et qui avez commencé aussi votre vie en lisant ou en écoutant Alice au Pays des Merveilles en roumain. Je remarque que vos couettes ont tout de suite poussé, là, Irina Teodorescu. Quelles sont les images qui vous reviennent quand vous entendez ça ?
La première image qui me vient, c'était un vinyle que j'écoutais, comme ça. Et donc, c'est le dessin de cette petite fille Alice, qui était dessinée sur la couverture de vinyle pour l'histoire. Et elle était avec son lapin, enfin, c'est pas son lapin, le lapin d'Alice et son énorme horloge. Et c'est vrai que quand j'écoute ça, je me dis, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, parce que je fais une collection d'horloges qui a commencé tout bêtement, parce qu'en fait, je me suis mis à acheter des horloges et à chaque fois, ça ne marchait pas.
Vous n'avez jamais rencontré de lapin en retard ?
Non, mais on ne sait jamais, ça se trouve un jour. Hein, à la place d'un rhinocéros, il y aura un lapin.
Est-ce que vous pourriez nous fredonner une comptine de votre enfance ?
Alors j'en ai une que ma mère me chantait pour m'endormir. Quand j'avais peur des loups. Forcément, quand on a un lapin comme petit ami. Un peu dura qua lune avea casa doi pitici. Vine pupăza și spune vreau să stau și eu aici. Pu 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 vreau să stau și eu aici.
Qu'est devenue la langue roumaine, vous qui écrivez aujourd'hui en français, exclusivement en français, Irina Teodorescu ?
Eh bien, la langue roumaine existe toujours. Moi, je la pratique déjà lorsque je me rends là-bas.
Parlez en roumain, vos enfants ?
Je parle en roumain à mes enfants. Enfin, ici, parce qu'on est paresseux, on parle en français, mais mes enfants parlent roumain. Bon, ils ont un gros accent français, c'est très drôle. Sioran, il avait une très très belle phrase par rapport à la langue. Il disait que la langue, pour lui, la langue roumaine, ça lui rappelle la terre brûlée d'été de son village natal, justement. Alors moi, je trouve qu'il y a de ça dans la langue roumaine et une espèce de légèreté dans le français. en tout cas pour moi. C'est comme de l'air, c'est quelque chose qu'on ne peut pas attraper, mais qui est là, qui ne va pas non plus partir, le français. Et c'est vrai que quand je passe de l'un à l'autre, je me rends très bien compte que ce n'est pas du tout la même chose. Qu'en fait, ça se trouve, si je m'étais à écrire un roman, ça se trouve, j'écrirais quelque chose de complètement différent.
Mais comment vous vivez le fait d'écrire quand même dans cette langue, le français, qui est devenue votre langue? Ça se sent bien, mais c'est quand même une langue étrangère.
C'est quand même une langue étrangère. J'espère que j'ai encore un accent, parce que j'ai l'impression que mon accent s'en va, que je ne sais pas où, je ne l'entends pas du tout.
Et ça vous panique?
Mais j'aimerais pas. J'aimerais bien garder mon accent. Alors, moi, j'adore écrire en français, parce que, pour moi, ça reste très approximatif.
C'est flou quand vous écrivez en français?
C'est un peu flou, exactement. Et j'ai l'impression que du coup, ça me laisse la possibilité. C'est comme si quand on regarde un paysage qui est flou, on peut tout imaginer derrière. Et ben moi, j'ai l'impression que ça me laisse cette liberté de toujours pouvoir m'approcher un peu et voir un peu mieux, un peu moins flou. Mais ça me donne une liberté, en tout cas, ça me donne une liberté énorme.
On sait depuis Suran, toujours, décidément, que les Roumains sont doués pour apprendre notre langue. Mais c'est quand même spectaculaire, chez vous aussi. Comment vous avez fait pour vous arriver en France à l'âge de 19 ans sans parler la langue? Comment vous avez fait pour apprivoiser la bête?
Alors, c'est pas tellement une bête. Voilà, c'est venu petit à petit. J'ai commencé à lire en français. J'étais un peu comme affamée d'apprendre le français le plus vite possible.
Avec une attraction physique pour le français, vous dites?
Oui, oui. Alors, soit physique de faim, soit physique de sensualité, très attirée. Oui, moi, je trouve ça très sensuel, le français.
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire.
J'écris. P. Qu'est-ce que P comme.
C'est pas quoi faire.
Place.
Non, j'écris. Qu'est-ce que C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que C'est pas quoi faire.
Alors vous, l'intuitive Irina Teodorescu, vous êtes à la place de qui dans la vie? D'Anna Karina ou de Belmondo?
Alors, d'Anna Karina, moi, je m'ennuie terriblement. Et du coup, je suis en train de crier intérieurement. Comme ça, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire?
Vous écrivez, pourtant.
Et oui, mais je ne peux pas écrire tout le temps, sinon je produirais des milliards de pages à ne plus savoir quoi en faire. Donc, il faut bien que je m'arrête. Et c'est vrai que j'ai des moments d'ennui.
Quelle est votre place? Ça, c'est la question qui va clore cet en sol majeur. On pourrait, pour s'interroger ensemble, le faire à travers le livre des places. C'est un livre collectif auquel vous avez participé. Livre où chaque romancier a écrit sur cette place de la Victoire à Bucarest, en face du gouvernement. Alors je le rappelle, si ça avait échappé aux auditeurs, moins d'un mois après son investiture, le gouvernement roumain, dirigé par le Parti social-démocrate, a suscité il y a peu, en février dernier, un mouvement de contestation populaire sans précédent depuis la chute du communisme en 89. Et tout ça pour avoir pris le 31 janvier, dans la nuit et en catimini, un décret assouplissant la législation anticorruption. Et ces manifestations, place de la Victoire à Bucarest, vous ont inspiré ces lignes, Irina Teodorescu.
Il y a eu des moments de grâce, beaucoup. Il y a eu des tempêtes de neige, des danses, des chorégraphies, des blagues, des idées. Il y a eu le conflit intergénérationnel. Les jeunes accusaient les vieux d'être trop morts. Les vieux accusaient les jeunes d'être trop vivants. Des articles dans la presse du monde entier, le soutien de l'Europe, de l'ONU, une photo vue du ciel. Il y a eu aussi quelqu'un qui a apporté un projecteur et quelqu'un d'autre qui a apporté une camionnette, et on a mis l'un sur l'autre, et c'est ainsi qu'il y a eu des messages projetés sur la façade d'un immeuble de la place. Il y a eu le soir de l'hymne national, et le grand l'immense silence d'avant. Le projecteur a projeté le silence d'avant l'hymne et un chronomètre s'est déclenché en dessous. Ce fut le silence. Tout le monde s'est tu. 200 000 personnes ce soir-là et au milieu de cet océan de silence, Theodor Tietze, journaliste, a pensé que vociférer avec 200 000 autres en même temps, c'est fort. Mais vivre un silence complet ensemble, ça, c'est quelque chose d'autrement plus grand. Il a alors écrit qu'en réalité, lui, il voulait parler, dire n'importe quoi, aux chiottes ou proutes, ne pas obéir, surtout ne pas obéir à ce projecteur qui projetait, mais qui n'a pas eu le courage, et que personne autour n'a eu le courage, et que par conséquent, il doit, et nous devons tous, reconnaître l'absolue supériorité de cette créature à 200 000 têtes.
Ben, nous y voilà sur cette place de la Victoire à Bucarest avec vous, Irina Teodorescu pour RFI. Est-ce que vous l'admirez vraiment, cette créature organique de 200 000 têtes? Ou bien est-ce que vous n'y croyez pas vraiment à ces grands rassemblements?
Alors, moi, j'y crois pas vraiment. Donc, je l'ai même écrit dans ce texte d'ailleurs. J'aime bien faire des prédictions parfois. Je me réveille comme ça, un peu sorcière. Et du coup.
Qu'est-ce que vous faites comme prédiction alors?
Bah, je fais comme prédiction que je me dis que je comprends pas pourquoi la Terre ne s'ouvre pas pour engloutir. Tous ces gens, pas ceux qui manifestent, parce que les pauvres, ils demandent juste qu'on les entende. Mais là, je disais que j'ai vu cette personnalité qui a fait ce discours lors de la proclamation de la télévision libre à la Révolution, donc il y a maintenant 28 ans. Il me disait que quand c'est arrivé, personne ne pensait qu'après le communisme, on aura le libéralisme sauvage qu'on a en Roumanie. Et il ne comprend pas, et qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, enfin, mais même toute la société roumaine n'était absolument pas préparée à ça, et c'est vraiment la loi de la jungle qui est arrivée.
Il y a un regret du communisme?
Ah, il y a un oui, oui, oui. C'est fou, c'est pas un regret du communisme, les gens regrettent Ceausescu. Ils ont oublié que c'est un dictateur, ils ont oublié qu'ils avaient peur, ils ont oublié qu'ils pouvaient se réveiller du jour au lendemain dans des bagnes parce que ils avaient un travail, c'était obligé, tout le monde avait un travail, et ça n'existait pas, personne au chômage, mon Dieu, et du coup un salaire, et puis du coup à manger, et pas le souci de lendemain.
Dans votre précédent roman Les Étrangères, vous racontiez l'histoire de Joséphine, qui est une petite franco-roumaine, qui préfère la Roumanie où il n'y a rien, à la France où il y a tout. Est-ce que c'est une forme d'autoportrait, Irina?
Non, pas du tout, parce que moi, j'ai vraiment pas connu ça. Par contre, c'est très très facile à imaginer. Et je sais très bien les choses que je préfère en Roumanie, à la France, aujourd'hui. C'est-à-dire que la société occidentale, on va dire, mais même américaine, elle est très individualiste et individualisée. Et il y a beaucoup moins de ça en Roumanie. Et il y a cette simplicité de rapport à l'autre, parce que les gens, ils ont l'habitude du système D, de toujours aider, en se disant, si on peut, on le fait, et puis on ne sait jamais quand est-ce qu'on a besoin aussi. Après, il y a aussi des choses quand même que j'aime pas du tout, c'est la notion de bien commun qui n'existe plus du tout en Roumanie, peut-être par la peur que le communisme a créé de trop de bien commun. Et bien aujourd'hui, on l'a plus du tout. Et c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que la rue est une poubelle. Là, je décris comme si c'était horrible, mais c'est une très très jolie ville, Bucarest. Et puis il y a aussi... C'est mon compagnon qui me disait, mais c'est fou. En fait, ici, les arbres se permettent de traverser la rue. C'est vrai qu'à Bucarest, parfois, tu as des arbres qui traversent, avec les racines, mais aussi en haut, parce qu'il y a tous les fils électriques qui sont encore visibles. Et du coup, il y a les arbres qui poussent comme ça l'été, et qui parfois traversent et font n'importe quoi. Et il me dit, mais c'est vrai qu'il y a cette liberté. En fait, si tu vois qu'un arbre peut traverser une route, eh ben, ça veut dire que moi aussi, un humain, je peux faire ce que je veux.
Un sol majeur. rfi.fr.
À lire aux éditions Gaïa, Celui qui comptait être heureux longtemps, d'Irina Teodorescu, qui va refaire Mest en sol majeur avec, avec Gainsbourg, puisque maintenant vous le...
Que je l'ai cité.
Vous maîtrisez Serge Gainsbourg.
Oui, vous voulez que je chante en même temps?
Si vous voulez, surtout que c'est la nostalgie camarade, on est encore à l'ère du camarade. Sol majeur avec Facebook, Twitter, et puis pour nous retrouver en podcast sur notre application Pure Radio, et bien sûr derrière votre poste, chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec Florent Kouaou-Zotti. À demain.